Merci. Eh bien, bonjour à chacun. Vous savez, quand on adresse un courrier, une lettre, par la poste en général, on signe cette lettre en bas, attestant que nous en sommes bien l'auteur. L'apôtre Paul, d'ailleurs, quand il signait ses lettres, il dit « Je signe ma lettre moi-même », parce que vous savez que c'est quelqu'un qui écrivait pour lui. Alors, cette lettre, on atteste, quand on la voit, en la signant, qu'on en est les auteurs et que nous prenons la responsabilité de ce qui est écrit dessus. Aujourd'hui, nous allons vivre un culte particulier, un culte autour d'Olivier Wenger que l'on désire envoyer en mission. Olivier Wenger s'engage pour un ministère à long terme avec la mission WEC qui se présentera tout à l'heure. Nous désirons, lors de ce culte, affirmer que nous, Église évangélique de Mérin, sommes à ses côtés pour ce service. Quelque part, Dieu, au travers de nous, son Église ici à Mérin, signe cet envoi. Car c'est toujours celui qui envoie premièrement. Et avec nous, il approuve ce départ avec la mission WEC, et notamment pour ce service en Hollande. Nous désirons ce matin accueillir tout spécialement les représentants de la WEC, André et Ursula Wenck, ainsi que M. Jim McWinney de la WEC, au Rüti, près de Zurich, qui nous vient depuis là-bas. On les applaudit. Et ils nous présenteront leur mission tout à l'heure. Bienvenue aussi aux parents d'Olivier, à sa famille, à ses amis qui sont peut-être venus pour ça. Bienvenue à Benjamin, je ne sais pas, est-ce qu'il est là? Ils sont là? Ah non, pas encore vu. Alors peut-être on les entendra après s'ils sont là. Benjamin Anchaud, qui n'a rien à voir avec la famille de Philippe Anchaud, peut-être la même branche, mais une autre, hein. Même source, mais même racine, mais une autre branche, et qui peut-être sera là tout à l'heure. Il nous annonçait sa visite, en tout cas. Il était ancien stagiaire chez nous. Bienvenue, fraternelle bienvenue à chacun d'entre vous. Et cette bienvenue, notamment, et j'aime le dire, autour de ce moment important du culte, où ensemble, nous communions avec Jésus-Christ et avec toute son Église au travers du repas de la scène. Prions. Seigneur Jésus, nous voulons te remercier pour ce temps que tu nous accordes, où librement nous pouvons t'adorer, te louer, te dire merci, nous présenter devant toi, avec tout ce que nous sommes, avec nos joies et nos fardeaux. Nous voulons te dédier ce culte que nous voulons au travers de cet envoi dont nous nous réjouissons d'Olivier. Merci pour ta présence au milieu de nous. Bénis tous ceux qui n'ont pas pu nous rejoindre ce matin pour des raisons diverses. Et bénis ton Église qui se réunit, qui te loue aujourd'hui dans le monde entier. En Jésus-Christ, Amen. Entrons maintenant dans un temps de louange avec le groupe de louange que je remercie.
On va prendre ce temps de louange ensemble pour chanter quelques chants. Et on va en tenir trois chants. Le premier, c'est un chant dans lequel nous pouvons affirmer notre foi en Dieu et la confiance que nous mettons en lui. Le deuxième, ce sera un chant qui s'engage à marcher à la suite de Jésus, ce Jésus qui détient la puissance sur la terre et dans les lieux spirituels. Et le troisième, qui est une demande de vivre pleinement par le Saint-Esprit. Donc, cette louange s'inscrit comme ça dans le thème de culte de ce matin, d'envoi, auquel nous sommes tous envoyés, d'ailleurs, dans ce monde. Et comme dit dans le livre de Néhémie, après qu'ils aient eu 3 heures d'études bibliques et 3 heures de confession des péchés, eh bien, les Lévites se lèvent et disent « Levez-vous, louez l'Éternel, votre Dieu pour toute l'éternité. Oui, que l'on te loue, toi dont la gloire surpasse tout ce que la louange peut exprimer. » Donc notre louange peut exprimer des choses, eh bien la gloire de Dieu surpasse tout cela. Voilà, je vous invite à chanter.
Que je suivrai toute ma vie. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je veux toujours te louer. Oh Dieu, tu es mon Dieu, et je veux toujours te louer. Je te chercherai dès lors, j'apprendrai dans tes voies, et pas à pas tu me conduis, c'est toi que je suivrai toute ma vie,
c'est toi que je suivrai toute ma vie. Seigneur, tu appelles le peuple que tu as choisi à combattre en ton nom, à vaincre l'ennemi, à rester debout, un peuple prêt à te servir pour que ton royaume vienne sur la terre. Que ton que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Tout genou fléchira au nom de Jésus, l'obscurité du monde s'enfuira. Déploie ta puissance et remplis ce pays, que la gloire resplendisse par nos chants. Que ton règne vienne, que ta volonté soit fait sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le ciel. Que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur terre comme dans le
thank you.
avec ton esprit. Nous verrons ta grandeur, nous vivrons l'unité, nous connaîtrons ton cœur. Tu donnerais librement ton esprit. Tu as dit de demander. Alors nous voici avec ton esprit.
Nous verrons ta grandeur.
Pour vaincre la chair avec ton esprit, avec ton esprit, avec ton
Nous remercions encore André et Ursula d'avoir bien venu nous rejoindre et je demande de maintenant de me rejoindre ici. Ils vont nous présenter et nous dire que veut dire WEC et nous présenter cette mission avec laquelle Olivier s'engage. Ah, Ursula, elle vient pas.
Non, c'est bon. Oui, j'ai 12 minutes, alors on ne va pas se mettre à deux pour parler. Hein. Oui, bonjour. Merci pour l'invitation. Ça fait quelque temps que je n'étais pas chez vous. Alors, la WEC, comment traduire ce mot? Vous savez, quand on a des missions qui viennent de l'anglophonie, là, on se dit, qu'est-ce qu'on va faire avec un W? Donc, wagon, ça ne va pas tellement bien, même si on a un wagon de missionnaire. Mais voilà. Alors, la WEC, ça veut dire Worldwide Evangelization for Christ. Alors, avec l'accent genevois. Et en détail, donc, worldwide, on pourrait dire en traduction en français contemporain, quoi, dans le monde entier, évangéliser pour le Christ. Alors, voilà donc un peu la signification de ces mots, Worldwide Evangelization for Christ. Worldwide, donc, c'est dans le monde entier. Nous sommes dans le monde entier et du monde entier. Ici, vous avez une carte de l'origine des missionnaires de la WEC. Donc, en 1998, on avait une certaine variété de drapeaux. Et puis, donc, maintenant, on a, en 2014, on avait 55 nationalités. Et en fait, la majorité de nos missionnaires actifs aujourd'hui sont des Coréens. Et puis après, il y a les Brésiliens, etc. Et les Suisses, beaucoup plus tard. Voilà. Et surtout les Suisses romands. La WEC, c'est 1800 envoyés provenant de 55 pays et on est actif dans environ 90 pays. Donc ça varie en fonction du climat politique, des tensions, des problèmes qu'on peut avoir. Donc on travaille dans environ 90 pays. Évangélisation, Worldwide Evangelization. Alors E comme évangéliser, évidemment. Mais je me suis dit, on pourrait aussi dire E comme enseigner, établir des églises, équiper de nouveaux envoyés, envoyer, ensemble, englober toute la personne tout entière et évangile. Évidemment, on est là pour partager l'évangile, pour faire connaître l'évangile à ceux qui ne l'ont jamais connu. L'évangélisation, donc, c'est de partout, vers partout. et avec surtout à la base de tous nos actions, établir des relations avec la population, que ce soit en Asie, que ce soit en Afrique ou en Europe, établir des connexions pour pouvoir partager l'Évangile. Mais, et j'aime bien poser cette question, où en est l'évangélisation du monde? Qu'est-ce que les gens connaissent de l'Évangile dans le monde aujourd'hui? Je crois qu'à Genève, il n'y a pas une centaine d'églises évangéliques. À l'époque, quand j'ai quitté Genève pour partir à l'école biblique, je me suis dit, je ne vais jamais revenir à Genève, il y a 50 églises, mais il peut faire le boulot tout seul. Et j'ai vu les Français, les pauvres Français avec leur peu d'églises. Puis j'ai vu qu'il y avait pire que la France, donc j'ai été au Sénégal. Mais où en est l'évangélisation du monde aujourd'hui? Et j'aime pas mal les statistiques quand même. Il y a dans le monde plus de 11 000 ethnies, ça dépend qu'est-ce qu'on met dans une catégorie d'ethnie, mais certains chercheurs identifient plus de 11 000 ethnies dans le monde. Et il y aurait dans le monde 4 908 ethnies, c'est-à-dire à peu près 929 millions de personnes qui ne bénéficient d'aucun effort d'implantation d'églises évangéliques actives ces deux dernières années. Donc voilà, il y a des missions qui parlent des peuples non atteints. Donc ça, c'est encore beaucoup plus large. Quand on parle de peuples non atteints, on arrive à beaucoup plus de millions encore. Mais ça, je trouve que c'est comme un chiffre dramatique de penser qu'il y a près d'un milliard de personnes qui n'ont pas d'implantation d'église active dans ces deux dernières années. Alors ça, vous pouvez tout accéder à ces chiffres sur Internet en anglais, mais je peux aussi vous les envoyer en français. Mais donc, il y aurait 442 ethnies dans le monde qui n'ont pas de chrétiens, pas d'église, pas de publication, matériel audio, visuel, aucune ressource humaine évangélique. 442 ethnies, que 10 millions d'habitants. Donc, de plus en plus d'ethnies sont touchées par l'Évangile. Mais néanmoins, on voit qu'il y a aujourd'hui des ethnies, dont 4466 ethnies, où il y a moins de 2% de chrétiens évangéliques, quelques ressources évangéliques, mais aucune implantation d'église. Donc ça, je crois que c'est vraiment le défi pour la WEC aujourd'hui, c'est le défi de l'Église avec un grand E aujourd'hui. J'aime aussi les cartes de notre collègue Patrick Johnston qui montre à quoi va ressembler le monde si ça continue comme ça. Si nos efforts d'évangélisation, nos efforts de témoignage continuent comme c'est le cas aujourd'hui, qu'est-ce qui va arriver en 2050? Alors on a ces chiffres en 1960, combien d'évangéliques il y avait sur les différents continents. Donc plus c'est jaune, quand c'est jaune c'est encourageant, et quand c'est rouge c'est un petit peu la cata. Donc comment ça évolue dans ces années? On voit que là ça devrait bouger, ça bouge. On voit que l'Afrique et l'Amérique est très touchée, l'Amérique latine, par l'Évangile. Et si ça continue comme ça, voilà à quoi va ressembler le monde en 2050. Et vous voyez qu'il y a d'énormes zones qui sont en rouge où il y a encore énormément à faire. Et si vous voulez garder une image de ce matin, en plus de l'envoi d'Olivier, gardez peut-être cette image à l'esprit. Si nous continuons nos efforts de la même manière qu'aujourd'hui, voilà à quoi va ressembler le monde en 2050. Donc ça me fait vraiment dire qu'il reste beaucoup de travail. Il y a beaucoup d'ethnies où il n'y a aucun travail. Alors ce qui est difficile avec les missions, l'implantation d'églises, c'est que souvent les ethnies les moins atteintes sont dans les pires coins du monde. Imaginez implanter une église au Yémen, en Afghanistan ou en Syrie aujourd'hui, c'est vraiment, vraiment très compliqué. Et pourtant, il y a vraiment besoin qu'on envoie encore des gens dans ces zones et surtout qu'on prie, qu'on intercède pour que le Seigneur amène la paix et qu'on puisse témoigner de nous dans des conditions normales dans ces pays. Évangéliser, c'était le fardeau de ce monsieur, le fondateur de la mission, contrairement à un livre qui est bien connu dans le monde francophone, la WEC n'est pas une mission américaine, mais anglaise. Donc c'est monsieur Stodd qui était champion de cricket. Et lui, un jour, il a tout plaqué, il a donné son héritage à différentes organisations, différentes missions, et puis il est parti en Chine avec Hudson Taylor, parce qu'il voyait que si Jésus a fait tant pour lui, qu'est-ce que lui va faire pour Jésus? Et surtout, comment est-ce qu'on peut rester comme ça indifférent alors qu'il y a tant de gens qui ne connaissent pas l'Évangile? Et c'est aussi pour ça qu'il est parti un moment au Congo en 1913. Il est parti au Congo où il n'y avait aucune église pour implanter des églises. Et sa vision, c'était vraiment que ce qu'il fait pour le Congo, il voulait le voir aussi pour le monde entier. Dieu lui avait donné cette vision, cette certitude que le voyage qu'il faisait au Congo ne concernait pas seulement l'Afrique, mais le monde entier. Donc, c'était le début d'une mission pionnière qui a démarré en Afrique centrale, puis ensuite Afrique de l'Ouest, Amazonie, Himalaya, Moyen-Orient, etc. Worldwide Evangelization for Christ. Ça, je crois que c'est la partie la plus importante, peut-être, pour Christ. Si on est là, ce n'est pas pour Olivier, c'est vrai qu'on est aussi là pour lui, mais on est vraiment là pour Jésus. Et si l'Église se met derrière Olivier, ce n'est pas juste pour que l'école biblique de Cornerstone aux Pays-Bas soit bénie par le travail d'Olivier, ils le seront, mais c'est pour Christ que nous le faisons. Et je pense à ce verset, « Tout ce que vous faites, faites-le de bon cœur comme pour le Seigneur et non pour les hommes. » Ou encore, « Soit donc que vous mangez, soit que vous buviez, soit que vous fassiez quelque autre chose. » Vous connaissez aussi la suite, j'espère. « Faites tout pour la gloire de Dieu. » Pour Christ. Ça, c'est vraiment notre objectif. Et si on est avec Olivier aujourd'hui, c'est pour Christ. La mission est là pour Christ. L'Église est là pour Christ. Et nous voulons vraiment appuyer cet envoi pour Christ. On m'a donné aussi la mission de donner une petite parole de la part de la mission pour Olivier et pour l'Église. Et j'avais à l'esprit cette parole de la déclaration de Lausanne. L'évangélisation du monde exige que toute l'Église apporte tout l'Évangile. J'ai tourné trop vite mes pages. L'évangélisation du monde exige que toute l'Église apporte l'Évangile dans sa totalité au monde entier. Et avec c'est vraiment notre objectif. De continuer d'envoyer pour que le monde entier soit touché. Et au niveau de la WEC, on a environ 385 postes à pourvoir, on a une liste dehors, et on a toutes sortes de possibilités pour que l'évangélisation se fasse dans le monde entier par différents moyens. Et je crois qu'une des caractéristiques de la vie dans le royaume de Dieu, c'est la diversité. Il y a tellement de choses à faire, tellement de rôles que les chrétiens peuvent avoir dans la mission. Alors c'est vrai qu'on pense peut-être souvent à ce bonhomme qui est au fin fond d'un village africain qui traduit la Bible, ou à cet évangéliste qui est peut-être sur une estrade, je ne sais pas où, au Nigeria avec 1 million de spectateurs. Il y a ces aspects-là, mais il y a tellement plus d'aspects. Et j'ai mis en dernier l'envoi. C'est tellement important qu'on ait des gens qui envoient, mais aussi des gens qui accueillent bien. Et je sais que Olivier continuera d'être bien accueilli dans son travail à Cornerstone. Alors, une petite parole, je crois, pour l'église de Mérin, ces paroles-là. Il y a diversité de dons, mais le même esprit, diversité de ministères, mais le même Seigneur, diversité d'opérations, mais le même Dieu qui opère tout en tous. Or, à chacun, la manifestation de l'esprit est donnée pour l'utilité commune. On a reçu des dons pour l'utilité commune. Les uns vont partir, les uns vont donner, les uns vont prier, peut-être quelqu'un fera tout en même temps, mais nous avons chacun un rôle dans ce travail. Et j'aimerais paraphraser cette déclaration de Lausanne en disant que être témoin de Jésus et de son œuvre dans ce monde exige que toute l'Église apporte l'Évangile dans sa totalité au monde entier avec tous les dons, toute la diversité, toutes les cultures et tous les moyens disponibles. Et l'informatique, je crois que c'est justement aussi un moyen de bénir la mission. On ne peut plus penser à la mission maintenant sans informatique. C'est incroyable combien on est dépendant de cela. Je m'arrête là, juste pour signaler qu'on a un stand dehors et puis qu'on a un livre gratuit pour vous qui dépeint aussi un petit peu quelles sont les activités de la mission avec donc 25 témoignages du travail que le Seigneur accomplit. Voilà, merci.
Merci André pour ces explications. Oui, que le Seigneur bénisse cette mission WEC et qu'il vous continue de vous bénir et que vous bénissiez cette mission au travers de votre service. Nous aurons l'occasion, je pense, de se revoir avec le groupe Mission aussi et nous allons aussi penser et prier pour vous. Nous faisons partie d'une union d'Église qui est la Fraie Fédération romande d'églises évangéliques. C'est notre union d'églises. Nous en faisons partie avec environ 50 autres églises par la Suisse romande. Cette union, via la Commission Europe, que je représente ce matin, personne ne pouvait nous rejoindre ce matin pour différentes raisons, Pardon ? Les enfants, vous pouvez descendre et merci pour... excusez-nous alors. Donc cette union approuve. Cette union approuve et reconnaît ce futur ministère d'Olivier. Cette mission, cette union, pardon, Frey s'engage à ses côtés pour un soutien spirituel et aussi un soutien matériel. C'est pourquoi la Frey, une convention qui est là, a été signée, il y aura un exemplaire pour Olivier, entre les divers partenaires de cet envoi. Les partenaires sont la Frey, la Commission Europe, la Mission WEC, l'Église évangélique de Mérin et Olivier Wenger. Cette convention précise les responsabilités et les engagements de chacun des partenaires, tels que le soutien spirituel, la responsabilité spirituelle, le soutien financier, pour la Frey en tout cas, comment seront données les diverses informations réciproques, quelle gestion dans les difficultés si celles-ci venaient à se présenter, etc. Mais cette convention veut surtout affirmer les liens qui nous unissent en Christ autour du ministère d'Olivier. Et je veux terminer en lisant ce verset qu'on a donné à Olivier avec le groupe Mission il y a déjà quelque temps, dans Hébreux 12, que je lis ici. Il suit Hébreux 11 avec toute cette nuée de témoins de la foi que nous décrit l'auteur des Hébreux. Quant à nous, nous sommes entourés de cette grande foule de témoins. Débarrassons-nous donc de tout ce qui alourdit notre marche, en particulier du péché qui s'accroche si facilement à nous, et courons résolument la course qui nous est proposée. Gardons les yeux fixés sur Jésus, dont notre foi dépend du commencement à la fin. Gardons ensemble tous les partenaires de cette convention, Olivier aussi bien sûr, les yeux fixés sur Jésus. Amen. Je vais maintenant passer la parole à Olivier, qui va nous parler un peu de son appel et de ce qu'il a reçu.
Bon, eh bien, bonjour tout le monde. Alors, bon, certes, je vais faire de l'informatique à Cornerstone, mais il m'a été demandé de partager un peu plus au niveau personnel, qu'est-ce qui... pas possible. D'accord, je vais essayer. De partager au niveau personnel un peu plus qu'est-ce qui m'a amené à partir dans le travail missionnaire et puis aussi qu'est-ce qui m'a aussi amené à diversifier mes activités. Donc c'est vrai que de base, quand j'étais jeune et autre, j'avais lu des livres sur les missionnaires, j'avais lu des livres sur des personnes qui sont parties dans différentes contrées et autres, et j'étais curieux à cet égard, mais ce n'était pas forcément quelque chose qui m'interpellait, parce que c'était quelque chose qui était assez déconnecté. Ce n'est pas forcément dans mon caractère de faire des choses pareilles et autres. Donc, je regardais ceci, j'étais curieux, j'écoutais, je voyais aussi les personnes qui parlaient de ceci au groupe de jeunes et autres, mais ce n'est pas quelque chose où je me voyais travailler là-bas. En 2012, j'ai profité d'une année sabbatique dans mes études pour notamment aller faire 5 mois à Cornerstone. En allant là-bas, pendant les 5 mois, tout à coup, je me suis rendu compte, mais en fait, c'est vrai, il y a les missionnaires classiques qui ont son travail plutôt d'implantation d'église et autres, mais il y a aussi des personnes comme des maçons, il y a des cuisiniers, il y a des comptables, il y a aussi des informaticiens. Et puis je me suis dit, mais c'est bizarre. En fait, simplement, avec ma personnalité, avec mes compétences, je pourrais aussi avoir ma place là-bas. Et c'est quelque chose en revenant ici après, qui est resté travailler dans mon esprit et qui m'a amené après à repartir en 2014. Donc après 2014, c'était l'idée de vraiment me mettre pleinement au service du Seigneur et en employant donc mes compétences informatiques pour faciliter le travail des autres personnes. Après, durant ce nouveau démarrage en 2014, je me suis joint également à une activité de groupe biblique qui avait lieu dans la région, et puis en tant que participant tout d'abord, et petit à petit... En entendant aussi un petit peu les besoins qu'il y a dans la région au niveau spirituel, je vous donne juste un exemple. Le village où on se trouve, c'est à peu près 1000 habitants. À 4 km, il y a une ville de 12 000 habitants. Cette ville avait quelques églises, notamment elle avait à peu près 6 églises évangéliques qui avaient certaines jusqu'à une centaine de personnes et qui ont toutes fermé ces 15 à 20 dernières années pour des questions, surtout de tensions internes. Donc en fait, les besoins sont là, mais pour différentes raisons, il n'y a plus d'apport, il n'y a plus de facilité pour les gens pour simplement se réunir et entendre la parole de Dieu. Donc en voyant tout ceci, en connaissant pas tellement la langue et autres, on s'est tout de même dit, durant l'été 2016, avec deux amis, bon, qu'est-ce qu'on essaie de faire cette année? Et on s'était dit, bon, cette année scolaire, on va se fixer comme objectif, on va essayer de démarrer un groupe biblique. Ce qui était assez... c'était un joli défi, sachant que la langue, effectivement, n'était pas notre fort. Et donc, pendant pas mal de mois, il n'y a rien qui s'est passé. Pendant plusieurs mois, on discutait avec les gens, il y avait des personnes qui étaient intéressées, mais il n'y a rien qui se passait. Après, il y avait des personnes qui étaient prêtes à démarrer, mais après qui disaient « Oh non, finalement, ça ne va pas jouer et autres. » Et donc, c'était assez frustrant. Puis on se demandait aussi également qu'est-ce qu'il convenait de faire. Mais finalement, après 7 à 8 mois, tout d'un coup, il y a deux groupes qui ont démarré. Et ça, pour moi, c'était vraiment impressionnant, c'est se dire, en se mettant à disposition pour Dieu, en le laissant agir, puis en restant ouvert à simplement à sa volonté, à sa façon de guider les choses, sans rester buté dans une direction précise, Dieu peut nous employer malgré le fait que ce ne soit pas forcément notre fort d'animer des groupes bibliques, malgré que ce ne soit pas forcément notre langue et autres, et puis de voir que non seulement il peut nous employer, mais qu'en plus, après le retour des personnes dans ces groupes, est très positif. On voit leur vie être transformée, les gens retrouver un peu espoir et autres. Et du coup, c'est quelque chose où je me suis dit, bon, je passais un petit peu de temps là-dedans auparavant. Maintenant, pour ce nouveau départ, j'aimerais bien passer un peu plus de temps. Donc, maintenant, pour la suite, je vais continuer d'essayer de me mettre à disposition de Dieu pour voir qu'est-ce qui est possible de faire dans cette région au niveau de plus ce qui est directement évangélisation. Donc, pas simplement faire donc du support informatique, mais également faire du travail plus de contact avec les gens. Voilà.
Ah, bonjour. Pour ma part, je vais vous parler de la responsabilité. Ça va ? Non, ça va pas. Ça va mieux à la cause. Alors, pour ma part, je vous parle de la responsabilité de l'OEM en tant qu'église d'envoi. Et il y a certainement des choses qui vont être répétées, mais comme il y a des nouveaux. Hein. Alors, notre église fait partie de la Fédération romande d'églises évangéliques, la FRE, qui regroupe une cinquantaine d'églises. Elle est organisée pour l'accompagnement des missionnaires et l'EEM a toujours été engagée dans cette vision. Donc, on m'a expliqué qu'au début, c'était du bénévolat qui a été un premier bureau ouvert par Armand Heiniger et Heidi à Bellevue. Un bureau qui s'est élargi et qu'aujourd'hui, qui est devenue la FSM, non, Fédération du service des missions et d'entraide, qui se trouve aujourd'hui à Saint-Pré. Donc, on peut vous dire aussi qu'aujourd'hui, les missionnaires, l'appui aux missionnaires est géré par deux structures distinctes. D'une part, le service des missions d'entraide pour le travail de développement, et avec les subventions de la Confédération et Pain pour le prochain. Et l'autre moitié des financements doit être trouvée par l'Église. Hein? Donc, par rapport à Olivier, non, je parle encore, pardon. Donc, notre Église donc, est engagée, comme vous l'avez entendu, dans le soutien missionnaire, et plusieurs membres de cette Église, comme Armand Heiniger, qui a été dans plusieurs commissions, Patrick Fuchsler dans la commission Afrique, Michel Serex dans la commission Italie, Véronique Diebold et Sylvain Dupertuis dans la commission Asie, ainsi que Paul-Robert Chanson, qui a présidé la commission France et qui préside actuellement la commission Europe. Pardon, qui fait partie de la Commission Europe. Donc, si j'ai oublié, vous n'hésitez pas. Et donc, c'est cette commission Europe qui s'occupe de l'envoi et du suivi d'Olivier. Alors, pour Olivier, quatre partenaires ont travaillé ensemble, comme l'a dit tout à l'heure Paul Robert, à savoir le secrétariat de la FRE à Saint-Pré, la Commission Europe, l'EEM, à travers le groupe Mission, et l'AVEC, que tout le monde a compris, Action d'évangélisation mondiale. Une convention donc, a été signée, qui vous a été montrée, entre Olivier, l'AVEC et l'EEM. Il a fallu une recommandation de l'EEM, ainsi que deux signatures de deux personnes distinctes. Entre autres, donc plus, le groupe Mission donc, a comme un des rôles du groupe Mission. Hein. Maintenir des contacts étroits avec l'envoyé, transmettre ses nouvelles à l'EEM, et nous serons donc à son écoute pour l'encourager et l'accompagner dans la prière. Si l'occasion s'y prête, nous organisons une visite sur place, comme nous l'avons déjà fait, c'est-à-dire Roger et Sylvain, ils sont déjà allés à Cornerstone en 2017. Donc, nous lui offrons aussi un cadre d'église lors de son retour en vacances, ou définitif, pour des besoins tels que recherche de logement, véhicule, et plus dans la mesure de nos possibilités. Et nous cherchons à maintenir un lien fraternel avec lui. Pour tout cela, nous restons en lien avec la FRE, la Commission Europe et l'AVEC, qui est l'organisation partenaire dans laquelle part Olivier. Donc l'AVEC offre le cadre nécessaire aux envoyés pour accomplir leur mission, mais chaque missionnaire dépend de dons privés. Pour Olivier, la FRE prend en charge un montant minimum pour couvrir la prévoyance sociale. Et ceux qui souhaitent soutenir le ministère d'Olivier, ils peuvent verser des dons à la WEC en son nom. Et voilà pour moi.
Merci beaucoup, Zéna, pour ces explications. Mais il est vrai que j'aimerais rappeler quand même la responsabilité de notre Église particulièrement, au travers de cet envoi, quand nous disons que nous engageons derrière Olivier. Cela veut dire aussi que nous nous engageons à prier pour lui. Nous nous engageons à l'accueillir, comme il a été dit. Nous nous engageons à répondre à ses besoins, s'il y en a, à entourer sa famille. Au travers du groupe Mission, nous nous engageons aussi à recevoir ses nouvelles, à les transmettre et à donner les sujets de prière. On ne va pas juste comme ça, puis il est parti, c'est bon. Non, on est vraiment derrière lui et nous nous engageons aussi dans nos réunions de prière à le faire régulièrement et à penser à lui, comme on pense d'ailleurs à tous ceux qui sont sortis des rangs de cette Église pour évangéliser, témoigner de Jésus-Christ. Merci.
J'écouterai ce que dit Dieu, car il est droit pour qui l'écoute. Sa paix divine est sur tous ceux qui vont à lui quand vient le doute. Fidèlement, je veux le suivre, je veux marcher. Il est la main qui me délivre de la folie de mes projets. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher. Ta bienveillance, ô éternel, vaut mieux que tout ce que j'ai vu. Ma délivrance est sous ton aile, sur le rocher de ton salut.
salut. Sa gloire est proche, son règne vient, et le pays est apaisé. Lorsque la crainte est en chacun, lorsque son nom est exalté, la chose en paix, suivant son pas, en justice et en vérité, recevons tout ce qu'il voudra, ce que sa main veut nous donner. Ta bienveillance,
bonjour à chacun, chacune. C'est un verset biblique connu qui aurait presque pu être le témoignage direct d'Olivier. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait: qui enverrai-je? Qui marchera pour nous? Alors, je répondis: je suis prêt. Envoie-moi. Et le Seigneur me dit: va. Qui est-ce qui parle ici? C'est le prophète Ésaïe. Mais comme dit, toute proportion gardée, ça aurait pu être Olivier. Parce qu'il y a quelque chose de cela dans le témoignage, dans l'appel, dans la vocation d'Olivier. J'entendis, je répondis. Ésaïe est en train de raconter ce qui lui est arrivé dans le temple de Jérusalem en l'an 740 avant Jésus-Christ. Ésaïe est jeune. Il ne sait pas encore qu'il aura une longue carrière de prophète. Il ne sait peut-être même pas qu'il sera prophète. Sa famille est plutôt bien placée. Ésaïe fait partie de cette jeune génération qui a reçu une bonne éducation. Il serait normal qu'il pense à un avenir où il exercera, lui, le jeune Ésaïe, des responsabilités. Des responsabilités. Par exemple, peut-être comme prêtre dans le temple, là où il se trouve quand il reçoit cette révélation, comme prêtre dans le temple. Ah ben non, ça c'était pas possible pour Ésaïe, parce que cette responsabilité n'était que pour les descendants d'Aaron, ce qu'Ésaïe n'est pas. Alors, peut-être dans l'administration du pays, pourquoi pas? Le pays a besoin de gens droits, le pays a besoin de gens bien formés, le pays a besoin de gens honnêtes, il y a tellement de profiteurs. Il y a trop de spéculations immobilières qui laissent les pauvres sur le carreau. Il y a trop d'abus dans le monde agricole. Il y a trop de corruption devant les tribunaux. La loi de Dieu est ignorée. Alors dans le pays, il y aurait beaucoup de choses à faire. Et finalement, si cela touche au domaine politique, pourquoi pas ? Il y a besoin de croyants dans l'administration d'un pays. Il y a besoin de croyants dans la politique. Ou alors dans la diplomatie. Essayer de protéger l'indépendance de Juda par rapport à la superpuissance du Nord, la Syrie. Ou alors gérer ses relations difficiles avec les États voisins, Damas, Samarie, Tyr. Ne pas se faire piéger par l'Égypte. Là encore, dans la diplomatie, il y aurait plein de choses à faire pour un croyant. Non seulement dans les domaines économiques ou militaires même, mais sur le plan religieux aussi, il y aurait des choses à faire. Comment éviter que tous ces pays ne viennent nous polluer avec leurs cultes idolâtres ? Ah, une belle carrière de diplomate pour Esaïe. Une belle carrière de diplomate au service du pays, au service de Dieu. Pourquoi pas ? Quels que soient ses projets, Esaïe a un cœur pour Dieu. Ce qui lui fait un point commun avec Olivier. Ce qui lui fait un point commun, j'espère, avec nous qui sommes là ce matin, un cœur pour Dieu. Et Esaïe vient donc au temple pour prier Dieu, et c'est là, au temple, alors qu'il vient pour prier Dieu, qu'Esaïe va entendre un appel qui changera sa vie. C'est au chapitre 6 du livre d'Esaïe. Et je vous invite à écouter maintenant la lecture de ce court chapitre, Esaïe 6, 1 à 13.
Esaïe, chapitre 6. L'année de la mort du roi Ozias, je vis le Seigneur siégeant sur un trône très élevé. Les pans de son vêtement remplissaient le temple. Des séraphins se tenaient au-dessus de lui. Chacun d'eux avait 6 ailes, 2 ailes pour se couvrir le visage, 2 autres pour se voiler le corps et les 2 dernières pour voler. S'adressant l'un à l'autre, ils proclamaient « Saint, Saint, Saint est le Seigneur des armées célestes. Toute la terre est pleine de sa gloire. » Les montants des portes du temple se mirent à trembler au son de ses voix, tandis que le sanctuaire se remplit de fumée. Je m'écriai, « Malheur à moi, je suis perdu, car j'ai les lèvres impures et j'habite au milieu d'un peuple aux lèvres impures. Et voici que, de mes yeux, j'ai vu le roi, le Seigneur des armées célestes. » Alors l'un des séraphins vola vers moi. Il tenait à la main une braise qu'il avait prise sur l'autel avec des pincettes. Il m'en toucha la bouche et me dit « Maintenant que ceci vient d'être appliqué sur tes lèvres, ta faute est enlevée et ton péché est expié. » Et j'entendis alors le Seigneur qui disait « Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ?» Alors je répondis « Je suis prêt, envoie-moi. » Et le Seigneur me dit « Va et dis à ce peuple, vous aurez beau entendre, vous ne comprendrez pas. Oui, vous aurez beau voir, vous ne percevrez rien. Rends ce peuple insensible, ferme-lui les oreilles et bouche-lui les yeux, pour qu'il ne voie pas de ses yeux, pour qu'il n'entende pas de ses oreilles, et pour qu'il ne comprenne pas, et qu'il ne puisse pas retourner au Seigneur afin d'être guéri. » Je demandai alors, « Jusqu'à quand, Seigneur ? » Et il me répondit, jusqu'à ce que les villes soient dévastées et privées d'habitants, qu'il n'y ait plus personne dans les maisons et que ce territoire soit réduit en désert et dévasté. L'Éternel enverra ses habitants au loin et le pays sera à l'état d'abandon. S'il y subsiste encore un 1/10 du peuple, à son tour il sera embrasé par le feu. Mais, comme un térébinthe ou comme un chêne qui conserve sa souche quand il est abattu, la souche de ce peuple sera une semence sainte.
J'ai vu le Seigneur, Adonai Tsevachot. J'ai vu le Seigneur des armées célestes, le roi des rois. Des créatures de feu criaient sa sainteté, saint, saint, saint est le Seigneur. J'ai vu ça. Je l'ai vu, lui. Et moi, Esaïe, j'ai été épouvanté. Moi, Yeshayahu ben Amots, Esaïe, fils d'Amots, moi, pécheur, j'ai vu Dieu. Malheur à moi. Ma bouche est impure. Je dis des choses que je ne devrais pas dire, comme tout le monde. Et je suis dans la présence de Dieu. C'est la fin. Mais non, ce n'est pas la fin. Parce que Dieu n'a révélé à Esaïe que ce qu'il pouvait supporter. Le trône, les êtres de feu, un vêtement qui remplit le temple, le rayonnement de sa gloire, des symboles, une vision. Personne ne peut voir Dieu et vivre. Esaïe n'a vu donc que ce qu'il pouvait supporter. Et c'était déjà beaucoup. Ce n'est pas la fin, parce que le feu de l'autel va purifier le péché d'Esaïe. Sa faute va être expiée, sa bouche va être purifiée. Au lieu de dire n'importe quoi, il pourra parler pour Dieu. C'est là l'expérience d'Esaïe, fils d'Amots, fils de bonne famille à Jérusalem, en l'an 740 avant Jésus-Christ. Et en un certain sens, cette expérience-là fait écho à l'expérience d'Olivier, fils de Marcel et Anne-Marie, en 2018 après Jésus-Christ. Et l'expérience de Jacqueline, Pierre, Paul, Jacques ou Jean, à Mérin, en 2018. Est-ce que dans notre façon de découvrir Dieu, dans notre façon de nous approcher de Dieu aujourd'hui, nous sommes conscients, comme Esaïe, de notre péché? La plupart du temps, non. Quand ils témoignent de leur rencontre avec Dieu, peu de chrétiens parlent d'avoir eu conscience de leur faute. Les mentalités ont changé. Les mentalités ont changé. Et par rapport à certaines exagérations, croyez-moi, c'est une bonne chose. Mais fondamentalement, s'il n'y a pas de péché, s'il n'y a pas de prise de conscience du péché, il n'y a pas de rédemption. Et il n'y a pas de rédempteur. Fondamentalement, l'expérience d'Esaïe peut nous aider à rééquilibrer notre piété. J'ai besoin, moi, que Dieu me rappelle de temps en temps que je suis un pécheur et qu'il est venu pour me sauver. Ça va aiguiser ma reconnaissance. Ça va mettre de l'épaisseur, du sens à ma vie. Parce que ce sont des pécheurs repentants et pardonnés que Dieu prend pour son service, à commencer par Olivier. Je reviens à Esaïe. Cette vision qu'il a eue dans le temple, ce n'était pas seulement une expérience mystique ou une transe sans lendemain. Ce n'était pas le genre d'expérience qu'Esaïe cherchera à renouveler tout au long de sa vie, tellement c'était fort. C'est une expérience unique qui donnera une direction à toute sa vie. C'est là qu'il entend l'appel de Dieu et qu'il y répond. Et j'entendis alors le Seigneur qui disait, « Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ?» Dieu a une mission à confier aux hommes et aux femmes. Qui enverrai-je? Qui marchera pour nous ? Dieu, dans sa gloire et dans sa majesté, cherche sur la terre des hommes et des femmes qui marcheront pour lui. Toi et moi, des pécheurs pardonnés, pour le servir. Moïse et Jérémie ont hésité à répondre à l'appel de Dieu. Ils ont présenté toutes sortes d'excuses. Moïse ne savait pas bien parler, Jérémie se considérait trop jeune, mais Ésaïe, lui, dit en toute simplicité, « Envoie-moi, envoie-moi. » Avant même de savoir ce que Dieu allait lui demander de faire, il dit, « Je suis prêt, je suis à ta disposition. Qui enverrai-je ? » Moïse a dit, « Ah, envoie quelqu'un d'autre, s'il te plaît. » Jérémie a dit, « Envoie quelqu'un de plus âgé, pas moi, je suis trop jeune, débrouille-toi, il y a des gens qui ont plus de 20 ans, adresse-toi à eux. » Ésaïe lui dit, « Envoie-moi, envoie-moi. » Sans poser aucune condition. C'est d'autant plus remarquable que Dieu lui demandera d'aller annoncer un message que personne ne voudra entendre. Dieu va lui demander de prêcher en sachant que le seul résultat à sa prédication sera une opposition de plus en plus marquée. Dieu lui demande d'annoncer par avance la destruction des champs et des pâturages, la destruction des villes, la mort ou la déportation des habitants, la fin de la maison de Dieu, la fin du peuple de Dieu, la fin des rois descendants de David, la fin de tout ou presque. Si Ésaïe espérait réussir sa vie dans la politique, c'était raté. Mais il y avait une note d'espoir dans son message, malgré tout. Une note d'espoir pour après, le verset 13 du texte que nous avons lu. Verset qui dit que quand un grand arbre est coupé dans une forêt, à côté du tronc de cet arbre coupé, la vie ressurgit à partir des racines, un rejeton, un rameau. Quand la nation aura été dévastée, comme un grand chêne abattu, un rejeton renaîtra. Des fidèles en petit nombre, purifiés par l'épreuve, et surtout, surtout, le Messie, Emmanuel, Dieu avec nous. La fin ne sera pas la fin. Mais cela, Ésaïe ne pouvait pas le dire tout haut et tout de suite. Il fallait d'abord que les gens entendent la mauvaise nouvelle avant d'entendre la bonne nouvelle. Et c'est pour cela que Dieu dit à Ésaïe, « Ésaïe, va !» Est-ce que tout ça, ça correspond ce matin à votre idée de l'appel de Dieu ? Une vision, des anges, un temple qui tremble sur ses fondements, la voix de Dieu qui vous parle directement. À ce tarif-là, il ne doit pas y avoir beaucoup d'appelés dans la salle ce matin. Et c'est pourtant parfois l'idée qu'on se fait de l'appel de Dieu, un gros truc irrésistible. Mais en réalité, Dieu a appelé à lui tous les chrétiens, toutes les chrétiennes qui sont devant moi ce matin. Même ceux et celles qui sont sur les côtés. Il l'a fait tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Vous savez, une rencontre bouleversante, une découverte progressive, une évolution linéaire ou un changement étape par étape, un grand bouleversement dans votre vie peut-être. Dieu nous appelle à lui par différents moyens qui correspondent à notre personnalité, à notre vécu. Dieu tient compte de qui on est. Ce n'est pas la méthode qui compte, c'est le résultat. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle création. Peu importe la méthode, c'est le résultat qui compte. De la même manière, vous allez découvrir le service auquel Dieu vous appelle d'une manière qui vous est propre. Il n'y a pas une seule façon de faire. Un chemin de Damas, peut-être. Une lumière éblouissante. Une parole donnée sur mesure. Une interruption temporaire de travail. C'est possible. un doux murmure à peine perceptible, des failles de la fragilité, c'est possible, des approximations successives, une cible de mieux en mieux définie, c'est possible. Est-ce que notre idée de l'appel de Dieu suppose que c'est d'abord pour notre épanouissement personnel, que notre service sera forcément toujours apprécié, que le succès sera assuré puisque Dieu est avec nous? C'est souvent ce qu'on pense. Et on peut parler de succès et d'épanouissement pour Ésaïe. Son livre a plus de 2500 ans et on le lit toujours. Je ne suis pas sûr que ce sera le cas du dernier Joël Dicker. Mais ce succès d'Ésaïe, c'était à quel prix? Ah, Dieu le prévient dès le départ qu'il ne sera pas écouté. Peut-être que du temps du roi Achaz, il a dû se retirer des affaires politiques. Le roi Ézéchias, lui était favorable, mais il ne l'écoutait pas tant. Le roi Manassé a persécuté ceux qui croyaient en l'Éternel. La tradition juive dit même qu'Ésaïe a été scié en deux par les soldats du roi Manassé. Dieu nous appelle les uns et les autres à le servir de différentes façons. Je pourrais témoigner des heures, des joies que j'ai connues dans une église pionnière. Mais je n'ai jamais cru que l'appel de Dieu me mettait à l'abri des épreuves. Jamais. Servir Dieu, c'est satisfaisant. Servir Dieu, c'est suffisant. Le succès, c'est la cerise sur un gâteau qui est déjà excellent. Mais servir Dieu, c'est suffisant. Dieu nous appelle donc tous et toutes de différentes façons. Et pour conclure, j'aime bien prendre Ésaïe comme le porte-parole de celles et ceux qui se portent volontaires, tout simplement, qui se portent volontaires. Vous avez envie de servir Dieu, mais vous avez peut-être eu l'impression de n'avoir jamais reçu d'appel direct. Il y a de la place dans le royaume de Dieu pour des volontaires. Qui enverrai-je? Dit Dieu. Ésaïe répond, « Me voici, envoie-moi. » Si Dieu vous dit ce matin, « Qui enverrai-je ? » Seriez-vous d'accord pour dire, « Envoie-moi, j'achète, je marche, c'est bon, ne cherche pas plus loin, je suis prêt, je suis prête. » Envoyer où ? Pourquoi faire ? Bon, on verra bien. On va découvrir ça ensemble. Pas forcément loin, parce que la mission, c'est aussi ici, à notre porte. Envoyer pour quoi faire? Bon, on verra bien. On va découvrir ça ensemble. Il y a tellement de choses à faire. Pas forcément éclatantes, parfois toutes simples, toutes discrètes. L'accueil de tous. Un bouquet de fleurs. Un coup de main à la garderie, la libéralité, une lettre à un envoyé. Avec Jésus, qui peut le moins, peut le plus. Vous seriez prêt à être envoyé pour faire le ménage dans votre église? On se comprend, hein. Moi, j'ai bien connu un chrétien qui était prêt à apprendre le coréen pour infiltrer des camps de concentration en Corée du Nord et y apporter l'évangile. Mais le ménage, ce n'était pas son don. Il est où votre don? Vous ne savez pas? Se porter volontaire. Juste se mettre en route. Juste tester ses aptitudes dans la réalité de la vie. Il n'y a rien de tel pour vraiment se connaître et découvrir où l'on peut servir Dieu au mieux. Me voici, envoie-moi. Nous voici donc réunis à Mérin ce matin, jeunes et vieux, Suisses et étrangers, hommes et femmes, et c'est probablement la plus grande différence entre nous. Là où nous en sommes dans la vie, Posons-nous la question lors de ce culte mission, ce culte d'envoi. Que puis-je faire pour Dieu maintenant ? Posons-nous la question. Que puis-je faire pour Dieu maintenant ? Prendre soin d'un parent âgé ? Prendre soin d'un proche dans le besoin ? Encourager un aîné, encourager un jeune, passer une année à la HET Pro sur les traces d'Aurélie, rejoindre l'équipe d'entretien des locaux, répondre à un besoin ponctuel ou régulier, juste m'impliquer un peu plus, exercer la libéralité donnée. Participer au temps de prière communautaire, une fois par mois. Écrire de temps en temps à Olivier, au Saillant, au Négrini, aux chansons, à nos envoyés. Avec le Seigneur, qui peut le moins, peut le plus, à celui qui aura été fidèle dans les petites choses. J'en confierai de plus grandes. J'entendis alors le Seigneur qui disait : Qui enverrai-je ? Qui marchera pour nous ? Alors je répondis : Je suis prêt. Je suis prête. Envoie-moi. Et le Seigneur me dit, comme il dit à Olivier : Va. Vas-y. Je suis avec toi. Amen.
Merci pour cette parole donnée et j'espère reçue par chacun. Nous désirons avoir une prière ou des prières d'envoi et de bénédiction autour d'Olivier et de ce service pour ce long terme avec la WEC. Alors je demande à Olivier de venir vers moi. Si un des parents ou les deux parents veulent venir, ils sont les bienvenus. Denise, pour le groupe Mission, pour la WEC. Zéna, pour le conseil. Philippe, bien sûr, avec nous. Et si quelqu'un d'autre veut nous rejoindre, il nous rejoint, pas nécessairement pour prier, mais pour poser la main sur Olivier et le bénir au nom du Seigneur. Cette prière est ouverte. Quelques-uns d'entre nous, pas tous, vont s'exprimer. Mais si quelqu'un dans l'Église désire exprimer quelque chose ou dire quelque chose, il le fait librement. Nous ne voulons pas regarder que la montre. Nous voulons être à l'écoute de l'Esprit du Seigneur. Posons la main sur Olivier et les uns sur les autres.
Notre Dieu, notre Seigneur, Père Céleste, je crois qu'il y a beaucoup de joie ce matin au ciel et chez nous ici à Mérin pour envoyer Olivier. Nous avons entendu ce matin la prédication de Philippe et nous voyons qu'il faut aussi de l'audace pour dire oui au Seigneur. Le oui d'un moment amène plus loin. Et le oui reste toujours oui, en dépit de ce qui peut arriver. Et Seigneur, nous t'apportons notre ami Olivier. Nous sommes heureux de le bénir en ton nom et de l'accompagner dans ce oui qui va partir avec exactement mardi. Que tu puisses l'accompagner dans son voyage, que tu puisses l'accueillir à Cornerstone et le mettre en phase avec ce qui l'attend, dans la paix, dans la joie. Nous ne doutons pas que tu vas l'accompagner jour après jour, lui qui, depuis déjà un moment, s'engage et se questionne pour finalement dire oui. Oui, tu m'envoies, Seigneur, et je suis là. Nous t'apportons, Olivier, avec confiance et nous te remercions de ta présence dans son cœur, dans son esprit, à ses côtés, qui marche avec lui jour après jour pour tout ce qu'il y a devant. Et merci pour cette promesse que nous demandons, que nous réclamons au nom de Jésus. Amen.
Amen.
Seigneur, je te remercie pour Olivier parce que tu l'as formé dans toutes ces années, au travers de ses études, de ce qu'il a vécu, de ses premiers engagements à Cornerstone, déjà tout ce temps passé là-bas. Et c'est vrai que nous te prions pour la suite, pour que tu le bénisses encore dans son caractère, sa personnalité, qu'il soit en bénédiction aux étudiants, en bénédiction au staff auquel il se joint. Seigneur, qu'il puisse vraiment être... cette bénédiction pour toutes ces personnes. Mais tu vois aussi cette région où il est, la région où est Cornerstone, ces groupes d'évangélisation, ces groupes d'études de ta parole, que là aussi, il y ait des portes ouvertes, qu'il y ait des opportunités de partager ta parole et que surtout, il y ait du fruit, que dans cette région, il puisse y avoir un nouveau dynamisme évangélique, une nouvelle passion pour toi. Seigneur, merci parce que c'est toi qui veux l'utiliser. Seigneur, et je pense vraiment à Olivier qui est comme un olivier duquel tu veux tirer cette huile de bénédiction pour lui et pour les personnes autour de lui. Seigneur, qu'il puisse être cette bénédiction qui coule en abondance au nom de Jésus. Amen.
Oui, cher Père Céleste, merci pour cette révélation que tu as faite à Olivier quand il était plus jeune. Nous te remercions pour cette conviction qu'il a depuis. Et nous te... prions, cher Père Céleste, de lui donner toujours cette joie qu'elle tienne, Seigneur, qu'il ait toujours cette paix. Nous te prions que les gens avec lesquels il sera en contact puissent le ressentir. Et nous te demandons, Seigneur, de poser ta main protectrice sur Olivier, par Jésus-Christ. Amen.
Amen. Amen.
Cher Seigneur, nous te prions pour notre ami Olivier, en te remerciant pour ton œuvre dans sa vie, pour la fidélité que tu as déployée et que tu déploieras encore. Seigneur, merci de savoir que dans l'appel que tu lui adresses, il y a chez Olivier une volonté d'obéissance. Je te prie d'ancrer en lui ces dispositions qui sont à ton honneur. Mets du vent dans ses voiles, cher Seigneur, qu'Olivier puisse expérimenter les ressources de ta grâce et être à son tour objet de bénédiction là où tu le places. Puis nous te demandons de nous faire cette grâce aussi en tant qu'Église, d'être de bons envoyeurs. Donne-nous de la suite dans les idées, s'il te plaît. Dans le nom de Jésus, amen.
Amen. On va chanter le numéro 1006, Notre Père. Je crois que c'est la prière de Jésus. Ouais. Cette prière qui nous unit tous, que le Christ nous a enseigné. Et ensuite, nous passerons à ce temps merveilleux de la Sainte Cène.
précieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour.
Je vais lire l'institution de la scène en 1 Corinthiens 12. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné, c'est que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, prit du pain, et après avoir rendu grâce, le rompit et dit : Prenez, mangez, ceci est mon corps qui est rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe et dit : Cette coupe est la nouvelle alliance en mon sang. Faites ceci en mémoire de moi toutes les fois que vous en boirez, car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne.
Bon, je vais prier pour cette sainte scène. Seigneur mon Dieu, cette sainte scène nous rappelle, Seigneur mon Dieu, notre état, et nous rappelle, Seigneur mon Dieu, également qui tu es. Seigneur mon Dieu, ça, cet espoir, Seigneur mon Dieu, que nous avons, c'est toi qui nous l'a offert, qui nous l'a accordé, Seigneur mon Dieu. C'est quelque chose, Seigneur mon Dieu, que nous voulons nous souvenir ce matin et pour lequel nous voulons te rendre gloire et avoir de la reconnaissance. Seigneur mon Dieu, permets-nous, je te prie, de percevoir notre état avec honnêteté et de tourner nos regards vers toi, Seigneur mon Dieu, avec l'honneur qui t'est dû. Je te prie. Amen.
Amen. Nous allons distribuer la coupe. Je demanderai à l'équipe du groupe Mission de nous rejoindre. Au centre des plateaux, il y a des gobelets roses avec le jus de raisin. Ceux qui désirent la coupe le font signe et je la leur donnerai. Voilà, alors si quelques-uns peuvent donner un coup de main, bah tiens. Si quelques-uns désirent s'exprimer par la prière ou par un verset, un texte, quelque chose, ils peuvent le faire maintenant, librement. le remercier du fond de notre cœur pour cette communion que tu nous as proposée il y a 2000 ans, ce pain et ce vin. Te remercier pour cette communion ensemble autour de ta personne. Dans le souvenir, nous faisons mémoire de tout ce que tu as fait pour nous. Nous voulons t'adorer, te louer, te bénir pour cela et pour ton amour. Amen. Nous allons passer à ce temps important de l'offrande et nous chantons le numéro 850, Christ est roi. Christ est roi, nous venons de le chanter, nous le croyons, nous le proclamons. Sois le roi, comme il a été dit, de toute notre vie, de tout ce qui nous concerne, matériellement, spirituellement, familialement, socialement. Seigneur Jésus, nous te remettons cette partie de nos biens, y compris celle qui est versée directement par la banque au CCP. Seigneur, tout cela, nous te le remettons, et que ceux qui feront le partage, ceux qui utiliseront cet argent, soient bénis en ton nom. Amen. Nous nous levons pour recevoir la bénédiction. Après, oui, les annonces seront après. Nous terminons le culte. Christ est roi. Nous l'avons entendu, c'est celui qui envoie. Il le dit à la fin de son ministère, à ses disciples, « Comme le Père m'a envoyé, moi aussi je vous envoie. » Que ce que nous avons entendu, les appels reçus, ne restent pas lettres mortes dans nos cœurs et dans nos esprits, mais qu'ils soient arrosés par ton amour, ton esprit, ton intelligence, et que nous allions pour te servir dans ce monde qui a besoin de toi. Que la grâce et la paix données par Jésus-Christ soient avec vous toute cette semaine. Amen. Alors voilà, le temps des annonces. C'est Elisabeth qui va le faire.
Bonjour. Alors, les annonces. Après le café, donc il y a un repas canadien. Alors, si vous avez oublié qu'il y avait un repas canadien, que vous n'aviez pas prévu, mais que vous avez envie de rester, osez. Il y a toujours, on partage ce qu'il y a, puis en général, il y a assez. Alors, ne vous faites pas de soucis. Si vous avez envie, restez. Jeudi soir, rencontre du conseil. Alors, depuis la reprise, les ordres du jour ou du soir sont très chargés. Alors, vous pouvez prier pour que nous ayons que Dieu nous donne la sagesse pour cette rencontre et les suivantes. Dimanche 30 octobre. Alors, on l'a déjà annoncé, c'est une rencontre d'information sur le fonctionnement de l'EM. Il y a des personnes qui sont nouvelles dans l'Église, enfin une année, deux ans, trois ans, qui ne savent pas forcément comment fonctionne. Et on se rend compte que souvent des gens nous disent « Ah, mais on ne savait pas, on ne savait pas ». Donc, c'est l'occasion de vous renseigner, de poser des questions. Donc, il y aura un repas qui sera préparé pour vous. Et pour cela, il faudrait que vous vous inscriviez. Alors, vous pouvez vous inscrire auprès des deux pasteurs. Ou alors, je crois qu'il y aura une feuille d'inscription. Pas encore, Elisa. Mais vous pouvez déjà vous adresser à Claude ou à Philippe pour vous inscrire. Et puis, le dimanche 30, c'est aussi, on va profiter, chaque année, il y a un dimanche où on accueille les nouvelles personnes qui viennent à l'église depuis une année environ. Et puis, il n'y a pas d'obligation, mais c'est toujours sympathique qu'on puisse présenter ces nouvelles personnes. Alors, vous pouvez soit le faire vous-même, soit on dit votre nom, et puis vous n'avez pas besoin de venir devant, vous pouvez simplement vous lever à votre place. Alors, vous pouvez vous annoncer auprès de Claude ou de Philippe, et puis le faire. C'est très, faut pas vous gêner, hein. C'est très sympathique, c'est une bonne manière de savoir qui sont les nouvelles personnes et de vous voir. Alors, les prochains ateliers bibliques sur le thème « Création et vocation de l'être humain ». Alors, les séances prévues, le 2, 16, 30 octobre et 6 novembre, ici à 20h. Je ne sais pas s'il y a des flyers ou... Alors, il y aura des flyers, ils ne sont pas encore là, mais il y en aura. Mais vous pouvez déjà noter ces dates. Aujourd'hui, Lauriane Schmitt a 20 ans. Alors... Alors, on lui souhaite un joyeux anniversaire. 20 ans, c'est l'âge où il y a beaucoup de choses, où on a face à beaucoup de décisions à prendre pour sa vie. Alors, Lauriane, on te souhaite de faire les bons choix dans ta vie. Ensuite, alors, j'ai encore quelques annonces qui ne sont pas mentionnées là. Une annonce que Claude m'a demandé de faire. Alors, le dimanche 7 octobre, nous aurons un culte participatif. Donc, participatif, ça veut bien dire ce que ça veut dire. Hein. Alors, Claude Bécher, le pasteur, présidera ce moment de participation libre pour jeunes et moins jeunes. Le thème sera « Voici ce qui, dans ma vie, m'aide pour mon combat de fidélité au Christ ». Nous ne doutons pas que ce sera un culte édifiant pour chacun et chacune. Donc, pour que vous puissiez vous préparer, je vous répète le thème. Voici ce qui, dans ma vie, m'aide pour mon combat de fidélité au Christ. Donc, c'est participatif et on compte sur peu de participation. Le dimanche 7 octobre aussi, il y aura la sortie des potes du dimanche. Alors, les détails de cette journée et pour l'inscription seront redonnés plus tard. Mais pour les parents, réservez déjà cette date du 7 octobre pour que vos enfants puissent y participer. Et comme nous avons le plaisir ce matin d'avoir avec nous Benjamin Anchaud et sa famille, donc nous avons le plaisir, il va nous dire, donc il a été stagiaire pendant une année ici à Mérin, et il va nous dire qu'est-ce qu'ils font maintenant, et puis nous annoncer aussi un culte, voilà. Alors Benjamin, je te donne la parole.
Merci. Bonjour. Alors, ça me fait très plaisir d'être là avec vous ce matin. En vous voyant, j'ai plein de souvenirs qui reviennent, multiples et variés, à la fois dans l'église, le caté, il y a eu les séances de conseil, mais aussi en dehors de l'église, avec quand je vous ai rencontrés les uns les autres, quand on allait chez le pédiatre, quand ma fille s'est enfermée dans sa chambre et que Paul Robert est venu ouvrir la porte. Enfin, aussi ce genre de souvenirs. Ça me fait vraiment plaisir d'être avec vous ce matin. Ça fait 2 ans maintenant qu'on est parti de Mérin. On est parti, c'était en été 2016, c'était il y a 2 ans. Et on a eu quelques mois un petit peu où on ne savait pas trop bien où on allait aller. Et on a atterri dans une église de réveil à Bienne. Donc voilà, je suis pasteur là-bas depuis 2 ans avec un certain nombre de défis. Je vous les avais partagés un petit peu brièvement dans une lettre de nouvelles. Et là, les choses se mettent bien en place. Et c'est vraiment super de voir comment Dieu vient toucher les vies, vient transformer les vies, non seulement les vies personnelles, mais aussi les relations qu'on a les uns avec les autres, quand on décide de mettre l'évangile en pratique, quand on décide de se pardonner les uns les autres et de croire que c'est possible de construire des relations, même quand il y a eu des difficultés, parce que Jésus-Christ est venu nous rejoindre. Et que la relation brisée qu'on a eue avec Dieu a été rétablie par Jésus-Christ. Et non seulement elle est rétablie avec Dieu, mais elle peut être rétablie avec les autres. Et ça, dans l'Église, il y a eu des relations qui ont été brisées et les gens ont osé aller demander pardon, ont osé se dire « mais oui, il y a encore quelque chose qui est possible, il y a encore quelque chose qui est beau les uns avec les autres. » Et c'est magnifique d'assister à ça. Et puis, c'était 2 années aussi qui ont été bien remplies au niveau familial. Il y a eu le déménagement, il y a eu l'arrivée de Lucie au début de l'année 2017. Donc voilà, on a accueilli notre 3e enfant, on venait d'emménager, on était encore un petit peu dans les cartons. Mais c'est vraiment, vous allez la voir tout à l'heure, on est venu avec nos enfants, elle est magnifique. Et dans les églises de réveil, il y a 3 années de stage. Dans l'Afrique, il y a 1 année de stage. Dans les églises de réveil, il y a 3 années de stage. Donc on m'a demandé un complément de formation et j'arrive bientôt au bout. Et le 14 octobre, c'est un dimanche, il y aura ma consécration pastorale. Alors je vous invite, si vous voulez venir, à la consécration pastorale, sera lieu à Bienne. Et j'ai une bonne nouvelle, c'est qu'on a prévu que les jeunes voix puissent venir. Voilà, on sait que Genève, c'est loin, on a mis 2 heures pour venir ce matin, il faut compter un peu près ça pour venir. Et sera lieu à 15h30. Donc vous pouvez venir au culte le matin ici, et ensuite vous pouvez venir jusqu'à Bienne, vous êtes vraiment les bienvenus. Alors voilà, on se réjouit aussi, le calendrier fait bien les choses. En fait, j'ai su cette semaine qu'on allait venir. Donc on s'est dit, ah, mais on n'a rien à faire ce dimanche, c'est assez exceptionnel. Donc on s'est dit, on va venir vous dire bonjour. Et on a vu que ça tombait sur un repas canadien. Donc on aura le temps de passer du temps avec vous. Et en plus, avec l'envoi d'Olivier, qui commence à partir quand tu es arrivé ici, en fait. Donc c'est super de voir que tu continues.
Voilà. Alors, merci, Benjamin. On est très contents. Donc, voyez, restez pour le repas canadien si vous voulez voir Benjamin et sa famille un peu plus longtemps. Et bon dimanche à chacun.